séance du conseil municipal du 7 juillet 2016. Et mesdames, messieurs, bonjour. Je vous propose dans un premier temps d'approuver le compte rendu de la séance du 23 mai et ensuite donc, nous prendrons l'ordre du jour tel qu'il a été défini en procédant notamment à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc à propos de l'approbation du compte rendu de la séance du 23 mai, y a-t-il des remarques particulières ? Bien, pas de remarques, donc je soumets à approbation. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au point numéro 1 de l'ordre du jour. Je fais état donc des différentes procurations. Béatrice Roux, qui sont en retard de quelques minutes, à Jean-Marc Petit, Dominique Rouillère à Pierre Collin, Blandine Rasselet à moi-même, Emmanuel Bresse à Morgane Chapeau, Jean-Louis Ribas à Michel Dell'Innocenti, Gilles Bernard à Alain Constant. Le secrétaire de séance sera Jean-Marc Petit. Merci. Donc nous allons procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc par courrier du 14 juin 2016, Madame Gilberte Lévy-Constant, conseillère municipale, a remis sa démission. Dès réception de cette dernière, une copie intégrale de la lettre a été adressée à Monsieur le préfet de Vaucluse. Conformément aux dispositions de l'article 270 du Code électoral et de l'article 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, la suivante de la liste conduite par M. Alain Constant, Bédouin et le Mont Ventoux, l'Avenir Ensemble et Mme Carole Perrin, et qui est appelée à remplacer Mme Lévy-Constant et à venir compléter le conseil municipal. Donc ceci ne nécessite pas d'approbation quelconque. Nous vous avons mis en pièces annexes le nouveau tableau, puisque c'est ainsi que s'appelle cette liste du conseil municipal, où donc les conseillers sont rangés suivant un ordre qui est tout à fait défini. Voilà donc la pièce qui est la nouvelle référence maintenant. Eh bien, Madame Perrin, au nom de l'Assemblée, je vous présente donc mes voeux de bienvenue. Je remarque une chose, c'est que vous avez un privilège qui passera. Pour certaines d'entre nous, ça nous est arrivé aussi. Vous êtes la plus jeune d'entre nous. Eh bien, gageons que votre jeunesse et votre fraîcheur nous apportent et apportent beaucoup à la commune. Bien, alors donc, tout de suite, nous passons aux décisions modificatives du budget primitif 2016. Donc c'est Pierre Collin qui va se charger de vous en faire l'énoncé et le détail. Et vous verrez donc que ces décisions modificatives, vous les retrouverez donc par la suite, puisqu'il est obligatoire donc de prévoir des dépenses, de prévoir l'affectation des fonds, avant que de les orienter sur des dépenses particulières. Pierre Collin, s'il vous plaît.
Merci Luc. Bon, une première délibération qui en fait comporte trois délibérations modificatives. Bon, je vais donner quand même quelques commentaires sur chacune d'elles. Donc, la délibération se réfère uniquement à des principes généraux. Donc, délibération, décision modificative numéro 1, elle concerne le reversement d'un trop-perçu sur une subvention qui avait été versée dans les années antérieures, je crois que c'est en 2012 ou 2013, par le FEDER. Elle était versée une subvention pour les travaux de l'église. Cette subvention avait été définie par rapport à un montant de travaux prévisionnel. Le montant de travaux ayant été légèrement inférieur, la subvention se trouve réduite d'autant, mais elle avait été versée, donc le FEDER nous demande de régulariser cette situation, c'est plus qu'une régularisation, de redresser cette situation en leur reversant une somme indue de 1300 euros. Je précise que ceci n'était pas du tout de la responsabilité directe de la mairie, mais en fait du syndicat mixte d'aménagement qui avait délégation de maîtrise d'œuvre sur ce projet. Donc il s'agit d'une d'un remboursement au FEDER de subventions trop perçues à hauteur de 1300 euros. Donc, une dépense nouvelle, oui, je pense.
La subvention était initialement de combien ?
Pardon ?
Elle était de combien, la subvention, initialement ?
Alors, écoute, je ne sais pas si j'ai l'historique complet du montant de la subvention du FEDER. Je ne crois pas l'avoir ici. Je n'ai que le montant de la régularisation, du redressement qui nous est demandé.
Ouais, c'était pour évaluer l'écart, quoi.
Bon, l'écart est pas. Je pense que c'était pas une.
99 000.
Oui, en fait, pour atténuer un peu les propos de Pierre, ce n'est pas la responsabilité directe du syndicat. Vous savez que toutes ces écritures de fonds européens sont opérées. Et devait être opéré, maintenant il en sera autrement, c'est le conseil régional, par la préfecture. Et donc la préfecture a globalisé les devis. Et par contre, au moment d'une vérification ultérieure, on s'est aperçu que les factures que nous avions fournies étaient légèrement inférieures d'un petit iota. Et donc on nous a impacté sur ce qui avait été versé.
Voilà.
Pour nous, le résultat est le même.
Je ne voulais pas mettre en cause le syndicalisme. Mais disons qu'effectivement, nous, on subit un peu sur ce point-là. Okay. Donc, il faut affecter un crédit de 1300 euros pour le remboursement de cette subvention trop perçue que l'on prélève sur des fonds disponibles au titre de, si je ne me trompe, des investissements non personnalisés, non individualisés. Je ne sais pas si vous voulez qu'on procède par vote sur chacune de ces DM ou bien si on procède sur un vote global pour les trois DM. Comme vous le voulez.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Bon, la deuxième DM est une décision modificative qui n'entraîne pas de virement, proprement parlé, de virement de fonds. C'est une écriture de régularisation, une écriture dite d'ordre, donc de transfert du budget fonctionnement, entre le budget fonctionnement et le budget d'investissement. Il s'agit d'une écriture d'amortissement des subventions que nous avons reçues au titre de l'aménagement de réseau des syndicats mixtes d'équipement du Mont Ventoux, donc de l'assainissement, l'aménagement de réseau d'assainissement au chemin des Sablières. Cette subvention, en fait une participation du syndicat mixte, s'élevait à 14 000 euros. Les travaux étaient amortissables sur 15 ans. Et donc, il faut imputer sur l'année 2016 un 15e du montant de cette subvention, puisque nous sommes tenus de passer en amortissement sur la durée prévue d'amortissement du bien en question les subventions au même titre que les travaux. Donc, une somme de 933 euros. Que nous avons arrondi à 1 000 euros pour simplification, qui sera imputé au titre de l'amortissement de cette subvention pour l'année 2016, et ça sera répétitif jusqu'à échéance de 15 ans.
Très bien. Des questions là-dessus? Simplement, ce n'est pas le. C'est une erreur de. C'est le syndicat mixte Rhône-Ventoux, celui-ci. Voilà, vous avez prononcé par erreur qu'il s'agissait du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement.
Ah oui, excusez-moi, alors c'est ma langue à fourcher parce que je pensais bien effectivement au syndicat mixte Rhône-Ventoux concernant la syndicat. C'est-à-dire le syndicat des eaux, bien sûr.
Très bien. Donc je vous propose d'approuver cette décision. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Le troisième décision modificative concerne une subvention. Vous vous souvenez que dans une délibération antérieure, nous avions décidé de verser au Racing Club de Bédouin une subvention exceptionnelle pour l'achat d'un véhicule pour transporter les jeunes. Cette subvention avait été chiffrée en fonction du coût du véhicule acheté. Il se trouve que sur la facture apparaît une somme supplémentaire qui concerne effectivement, je crois,
un malus écologique.
Pardon ?
Un malus écologique.
Voilà, un indice écologique, c'est-à-dire une pénalisation compte tenu des caractéristiques techniques et du moteur de ce véhicule. Bon, il nous a semblé normal que ça ne soit pas le Racing Club qui supporte ce montant supplémentaire. Donc, nous proposons d'augmenter la subvention qui lui avait été prévue pour un montant. L'augmentation porte sur un montant exceptionnel de 1 600 €.
Voilà. Équivalent, donc là, 50% de la subvention est prise en charge par la Fédération française de football, mais ils ne prennent pas en charge le malus écologique qui nous revient de droit, de toute façon. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je le soumets aux voix. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie.
Alors, toujours sur les décisions bonificatives, le point numéro 3, une décision bonificative qui concerne le budget annexe camping piscine tennis. Il s'agit là aussi d'amortissement de subvention. La subvention qui a été versée, puisqu'en fait, dans l'opération, nous avons. Ce n'est pas nous qui étions le maître d'œuvre. Nous avons versé une subvention au camping. Le budget municipal principal a versé une subvention au budget camping pour la réalisation de cette opération. Donc cette subvention, elle doit être amortie. Comme n'importe quelle autre subvention, la durée d'amortissement ayant été fixée à 30 ans pour cet équipement, le montant de la dotation s'élève à 6 100 € et doit être prévu en amortissement dans la section de fonctionnement de la commune et en recette par transfert des dépenses d'investissement. Dans l'article 139 418. Et là aussi, cette opération d'amortissement qui est une opération d'ordre, hein, c'est pas un transfert ou c'est pas un mouvement de fonds proprement dit, c'est une opération d'ordre qui nous permet, suivant la règle des amortissements, qui nous permet de prévoir comptablement sur la durée d'amortissement le montant nécessaire pour le renouvellement de cette opération dont l'amortissement est prévu sur 30 ans.
Très bien. Des questions sur cette opération ? Bien, donc je la soumets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Pierre, je vous demanderai de revenir à la question précédente sur la commune de Bédouin dans les décisions modificatives. On a la participation à l'installation des médecins que l'on n'a pas détaillé.
Exact. Effectivement, j'ai parlé effectivement ces différentes opérations pour l'église, pour l'emboursement de subventions, pour l'opération d'ordre, pour les opérations du syndicat mixte. Les subventions aux organismes de droit privé, en fait, il y en a deux. Je n'ai parlé que de celles concernant le football club, le Racing Club. Il y a également une subvention que nous devons décider. Vous vous souvenez que pour l'installation, pour faciliter, enfin pour permettre l'installation de nouveaux médecins sur la commune, ce qui n'a pas été sans grosses difficultés, nous nous sommes engagés auprès des médecins qui accepteraient de venir s'installer sur la commune de Bédouin de participer au financement de la location du local qui est aujourd'hui occupé par le centre médical, de participer donc au financement pour chacun des nouveaux médecins, ceci pour un montant déterminé à l'avance, qui est, si je ne me trompe,
10 000 €,
ce soir. Et cet accord n'entrant en ligne que jusqu'à l'ouverture de la maison de santé multiprofessionnelle. Donc c'est une aide provisoire jusqu'à l'ouverture de la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc de même que Dr Hans Berger, qui a déjà pris ses fonctions, a bénéficié de cette subvention, nous sommes tenus d'offrir la même aide aux nouveaux médecins qui s'installent l'un au mois de juillet. Donc, incessamment, le docteur Dubert et l'autre au mois d'août, donc le docteur Cassegas, pour 2015, mais ça se prolongera en 2016. Pour 2016, mais ça se prolongera en 2017. L'un pour 6 mois, docteur Dubert, ça représente 415 euros par mois pour 6 mois. L'autre, docteur Cassegas, pour 5 mois, c'est le même montant, 415 euros, mais pour 5 mois seulement, 2075 euros. Ils auront à reprendre ce type de délibération pour l'année 2017 jusqu'à l'ouverture de la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc il s'agit là d'une subvention exceptionnelle, bien sûr, liée à cette opération et qui va se prolonger, disons, pendant un an et demi.
Très bien, voilà, et ce sera donc à reconduire chaque année, effectivement, au moment du budget, puisque nous fonctionnons en budget annuel, malgré le fait que ce soit sur une convention longue. Donc, on note l'arrivée de Mme Roux et de M. Faure, qui vont participer à ce vote. Y a-t-il des questions là-dessus ?
Non.
Je le soumets donc à votre approbation. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous continuons, nous revenons donc à l'ordre du jour, opération numéro 4. Cette fois-ci, c'est une décision modificative de l'exploitation forestière. Pierre, vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît.
Il s'agit en fait de la poursuite de l'opération de remise en état du chantier du Jas du Temple, à l'occasion d'un chantier jeune réalisé par la PAR. Comme chacun de ces chantiers jeunes que nous avons financés et auxquels nous avons participé dans les dernières années, la commune participe sous forme d'une subvention. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres d'œuvre, donc c'est bien une subvention que nous versons, à la part environnement qui est le maître d'œuvre. Il se trouve que un premier projet de financement nous avait été présenté, sur lequel nous avions donné notre accord par la PAR il y a 3 ou 4 mois. Ce projet de financement, ce plan de financement prévoyait une participation de la mairie à la hauteur de 14 000 euros. Il prévoyait également une subvention de la région à hauteur de 5 000 euros. Dans la réalité, la région, dans un contexte sans doute d'austérité, a décidé de n'attribuer à cette opération qu'une subvention de 3 800 euros. Donc le plan de financement se trouve amputé d'un montant de 1200 euros et la variable d'ajustement, ça peut difficilement être autre chose que la subvention de la mairie. Donc ce plan de financement est rectifié et le montant de notre subvention passe de 14 000 et quelques à 16 000, la différence représentant à peu près 1200 euros. Simplement pour compléter le manque à gagner par rapport à l'espérance de subvention, mais c'était jamais qu'une espérance de la part du conseil régional.
Très bien. Des questions là-dessus ? Alors, je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et Monsieur Faure, donc alors nous avons pourvu les lignes budgétaires. Maintenant, donc, on va pouvoir dire à quoi on les affecte, même si on a quand même un peu déploré le sujet pour le moment.
On a affecté les crédits, ensuite on va prendre la décision.
Voilà. Mais oui, mais c'est la règle. Voilà.
Alors, il s'agit de l'aide à l'installation de médecins sur la commune. Donc, afin de lutter contre la désertification médicale et garantir aux administrés une continuité d'accès aux soins, la municipalité a entrepris plusieurs démarches pour faciliter l'installation de nouveaux médecins généralistes sur la commune et décidé par délibération du 22 septembre 2015 d'accorder une aide à l'installation. Dans l'attente des travaux de construction de la maison de santé, Il est proposé de renouveler le principe d'un accompagnement financier sous la forme d'une prise en charge du loyer à hauteur de 10 000 euros sur la base d'une aide mensuelle de 415 pour le docteur Hubert à compter du mois de juillet 2016 et pour le docteur Casegas à compter du mois d'août 2016. Ainsi, en contrepartie de l'engagement du docteur Hubert et du docteur Casegas à exercer sur la commune pendant une période minimale de 4 ans, à compter des mois de juillet et août 2016, la commune participerait à compter du 1er juillet 2016 et du 1er août 2016 au paiement d'une partie du loyer du cabinet médical, actuellement route de Flassan, à hauteur de 415 euros par mois. La participation municipale serait versée chaque mois directement aux locataires. Il est précisé qu'en cas de départ de la commune avant le terme de son engagement, le docteur Hubert et le docteur Casegas s'engagent à rembourser à la collectivité le montant de l'aide ainsi attribuée selon les modalités ci-après. Départ durant la première année, remboursement de 100%. Départ durant la deuxième année, remboursement de 75%. La troisième année de 50% et enfin la quatrième année de 25%. En cas d'ouverture anticipée de la MSP ou de rupture du bail, la participation de la commune sera caduque. Vu le budget, vu l'engagement des médecins, vu les projets de convention, considérant l'intérêt pour la commune, il est demandé au conseil d'accepter la prise en charge d'une partie du loyer et de prévoir les crédits du budget primitif 2016 à l'article budgétaire 6574, 2490 pour le docteur Hubert, 2075 euros pour le docteur Casegas, de prévoir le cas échéant les crédits pour les exercices suivants et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document.
Très bien, merci pour cet exposé. Donc, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que nous serons désormais au mois d'août, disons du moins à la rentrée de septembre, pourvu de trois médecins, et que nous retrouverons ainsi l'effectif médical qui était le nôtre il y a quelques années. Mais comme vous pouvez le constater, comme vous le savez, donc cela nécessite des engagements financiers pour la commune. Et donc, on a dû rémunérer aussi, vous le savez, mais bon, c'était relativement minime, les services donc d'un courtier, hein, qui a permis justement d'entrer en rapport avec certains candidats. Bien, des questions là-dessus ? Donc, je le soumets...
Des agents, quoi.
Oui. Ouais.
C'est pas mal footballeur, mais toi.
Le courtier, c'est 960 euros. Hein.
Oui, c'est 960 euros, même ça se rajoute à ça. On est bien d'accord. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Parlez-nous du minibus, Vincent.
Oui. Oui. Alors, maintenant, on va voter pour la dépense pour le RCB. Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par le RCB pour les frais annexes occasionnés par l'acquisition du nouveau minibus à hauteur de 1600 euros, vu le budget de la commune, vu la délibération 2016-033 du 23 mars 2016 portant attribution de subventions aux organismes de droit privé, considérant que le versement de la subvention reste subordonné à la convention de mise à disposition du véhicule au profit du service municipal enfance, jeunesse, éducation, il a demandé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 1600 euros au profit du Racing Club de Bélois, de dire que cette subvention sera imputée à l'article 65-74 du budget primitif 2016 et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent.
Voilà. Très bien, bon, nous en avons parlé, rien de plus particulier. Vous notez qu'on fera une convention d'utilisation, hein, comme on l'avait fait précédemment. Des questions là-dessus ? Je le soumets au voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le chantier de jeunes, donc parlez-nous Pierre s'il vous plaît, de la modification du plan de financement.
Un peu la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Délibération du 4 avril 2016, la commune avait décidé d'engager un chantier jeune au jardin du Temple. Projet évalué initialement à 29 342,99 euros. Pour lesquels la participation prévisionnelle de la commune s'élevait alors à 15 502,99 euros. Le plan de financement ayant été finalisé et la participation municipale intégrant la subvention départementale, oui, c'est bien quelque chose qu'il faut se mettre en tête. La participation municipale est fixée à hauteur de 16 784 euros, mais en réalité, notre financement propre est inférieur, puisque dans ces 16 784 est inclus la subvention départementale, subvention versée par le conseil départemental du Vaucluse, qui nous est versée à nous. Elle pourrait être versée à la part, mais en fait, les modalités sont instituées depuis déjà plusieurs années, font qu'elle nous est versée à nous. Donc, nous payons 16 784 euros, soit 1 282 euros de plus, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, que ce qui avait été prévu. En réalité, nous toucherons par ailleurs 7 000 euros qui seront versés sous forme de subvention qui a été attribuée, pas versée, mais qui a été attribuée, donc c'est une certitude, de la part du conseil départemental. Donc vous avez là le plan de financement définitif tel que nous l'a confirmé, nous l'a proposé la part, sur lequel nous allons signer la convention. Vu les crédits disponibles au budget annexe exploitation forestière, puisque ceci est imputable à l'exploitation forestière pour l'exercice 2016, vu le projet de convention d'accueil des chantiers de bénévoles dans le cadre de la politique régionale de la jeunesse, il a demandé au conseil municipal de valider ce nouveau plan de financement et d'autoriser M. Hubert à signer la convention avec la part CME ainsi que toutes pièces subséquentes.
Très bien. Ça semble suffisamment clair. Je le soumets au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La MSEP, Denis,
allez.
S'il vous plaît, l'APD.
Alors, tout à l'heure, on a parlé des médecins, des coûts pour attirer les médecins. La MSEP est également un moyen d'attirer les médecins. Si on n'avait pas eu l'idée de construire cette MSEP, les simples annonces qu'on a passées n'auraient pas suffi pour attirer et fixer les médecins. Alors donc là, il s'agit de l'approbation de l'avant-projet définitif. La commune de Bedouin est porteuse du projet de construction d'une maison de santé, jouxtant l'opération de construction de l'EHPAD de demain. Par délibération du 30 octobre 2014, la municipalité a décidé de confier un contrat de mandat public à la société Citadis, et accepté par délibération du 30 octobre 2014 de constituer un groupement de commandes avec l'EHPAD de Bedouin. Le conseil municipal, par délibération du 7 juillet 2015, a autorisé l'ouverture de crédits budgétaires et l'engagement de l'opération. Par délibération concordante du 13 janvier 2016 pour l'EHPAD et 1er février 2016 pour la commune, les collectivités ont manifesté leur intention de céder à la commune une partie de la parcelle appartenant à la maison de retraite et sur laquelle sera construite la future MSP, en contrepartie de la réalisation d'une aire de jeu et d'un cheminement piétonnier. Par décision du maire du 10 août 2015, il a été confié à Architecture Environnement les missions d'esquisse, de maîtrise d'œuvre, d'ordonnancement et de pilotage des travaux de construction de la MSP pour un montant forfaitaire de 2472,47 euros pour l'esquisse et 41 475 euros pour la maîtrise d'œuvre. Coût travaux, plus 3950, pardon, pour OPC, c'est quoi? C'est le... Ah, d'accord. Donc, vu l'avant-projet définitif présenté par la société Citadis, mandataire établi par la maîtrise d'œuvre, faisant état du montant prévisionnel de travaux, pour le bâtiment 356 010, pour les VRD, les parkings des professionnels 53 700, le montant hors taxe des travaux ressort à 409 710 euros. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code des marchés publics, la loi du 12 juillet 85 relative à la maîtrise d'ouvrages publics, vu les crédits budgétaires, il est demandé au conseil d'approuver l'avant-projet définitif et d'autoriser la société Citadis à signer l'avenant avec la maîtrise d'œuvre et à engager par la suite la consultation auprès des entreprises, d'autoriser M. le maire à signer la demande de permis de construire et toute autre pièce relative à cette opération, et de donner pouvoir à M. le maire pour solliciter d'autres subventions ou participations.
Très bien. Alors, vous avez pu constater qu'on vous a mis un plan de financement prévisionnel complet dans les pièces annexes. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre compte, là, on est sur du montant hors taxe, mais vous vous rendez compte de plusieurs choses. Du montant total de l'opération, donc vous rajoutez encore 20%, là. On est à plus de 700 000 euros. Et par contre, ce qui est important aussi, et je tiens à le souligner, à les remercier, c'est la participation des communes voisines, Blobac, Modène, Plassans, Crillon-le-Brave, Saint-Pierre-de-Vassols aussi, et Ville-sur-Ozon qui va délibérer prochainement. Donc ça représente bien la reconnaissance donc qu'ont ces communes de la nécessité d'avoir des médecins sur notre territoire. Bien sûr, chacun intervient en fonction de ses moyens, mais je crois que ce qui est important, c'est la prise de conscience. Bien. Y a-t-il des questions particulières ?
Oui, concernant les dépenses, études de prestataires intellectuels.
Oui.
On est à 93 000 euros.
Oui.
Sur une enveloppe de 600 000, donc si on enlève ces frais-là, en gros, c'est 500 000. Oui. Il n'y a pas loin de 20%.
700 000, 100 000, oui. Oui.
C'est énorme.
C'est énorme. Ça a été mutualisé néanmoins avec la maison de retraite.
Ça reprend la rémunération de la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Oui,
mais en fait, si t'as 10-14
000
euros, les assurances
suffisent.
Oui,
il y a 20% du projet. Ouais. On est sensiblement.
Si le projet grimpe, ça va
être en bête. Non, sachant que là, elle est forfaitaire, cette rémunération.
Elle est forfaitaire, oui.
Heureusement.
Parce habituellement, on est plus sur du 10-12% peut-être.
Ah non, les honoraires d'architecte, en principe, c'est 12 à 14. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est la MOD. Quand on travaille, par exemple, avec le SMEB, on est à 4%. Donc ça nous fait 16, et pour peu qu'on ait quelques sondages, quelques études un peu plus particulières, les études de terrain et autres, se trouvent dans des... Oui, mais on regrette tout. Disons que ça vient impacter des coûts directs dont on ne se figure pas toujours le montant au moment où on lance l'opération.
Il y a la rémunération.
Je peux me permettre, parce qu'on ne peut pas comparer ce pourcentage à une simple maîtrise d'œuvre d'un architecte, puisqu'en fait, il y a dans ce montant des études préalables, une étude de faisabilité, qui était indispensable, dans le bon texte, où on menait parallèlement à la fois l'EHPAD et la MSP. Bon, il y a effectivement une délégation de maîtrise d'ouvrage, ce qui aussi n'entre pas dans la mission normale, dans la mission d'un architecte, et puis il y a la maîtrise d'œuvre de l'architecte. Plus tout ce que vient de préciser, de compléter Luc, c'est-à-dire les assurances, MOD, etc. Donc effectivement, le pourcentage peut apparaître très gros, mais il couvre un ensemble qui n'est pas le même ensemble que de simples travaux où on signe un contrat avec un architecte à hauteur de 12% de rémunération.
C'est vrai. Mais la partie intellectuelle est bien payée, quoi, je trouve. Voilà. Un projet à 500 000, mais bon, c'est mon avis. Voilà.
Très bien, ces éclaircissements étant apportés, je soumets le projet au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avec la COV, la convention de mise à disposition à titre gracieux de la plateforme Internet mutualisée. Chantal Blanc, s'il vous plaît.
Alors, la COV développe une plateforme Internet mutualisée qu'elle se propose de mettre à disposition des communes qui disposeront d'un site internet autonome et auront accès à des données partagées et des fonctionnalités développées. Considérant l'intérêt pour la commune de Bédouin de mutualiser et de renforcer l'information des administrés et ainsi de promouvoir l'image de la collectivité, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et toutes les pièces afférentes.
Très bien, cette plateforme mutualisée, on en parlait depuis plusieurs mois, donc de nombreuses réunions de travail.
Oui, on a fait de nombreuses réunions. On a un calendrier, donc ça sera livré en septembre-octobre 2016. Il y aura des contrôles en novembre-décembre 2016 et normalement, ça devrait être mis à disposition des communes en janvier 2017.
Voilà, et dans un deuxième temps, ça nous servira aussi avec l'Office du tourisme intercommunal.
Donc du coup, on aura des informations communes, mutualisées, et ça permettra aussi de dégager du temps à l'agent qui est responsable de mettre à jour notre site internet, puisque c'est la COV qui le fera, et voilà.
Très bien. Je mets cette proposition au voie. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie. Ensuite, l'adhésion à l'association des élus au patrimoine de Vaucluse, l'AEPV. Pierre Collet, s'il vous plaît.
Oui, c'est pas quelque chose d'une importance phénoménale, mais enfin, nous avons été sollicités par l'association des élus au patrimoine du Vaucluse, l'association existante, qui agit dans ce domaine depuis plusieurs années, nous avons été sollicités pour y adhérer. Il nous a semblé que c'était intéressant, puisque l'objet est de constituer un réseau de professionnels, d'experts, de conseillers, de personnes ressources dans les différents domaines pour aider à défendre, sauvegarder et valoriser le patrimoine vauclusien. Il s'agisse du patrimoine mobilier, immobilier, naturel, matériel ou immatériel. Donc c'est très large. Et qui puisse un patrimoine présentant un intérêt historique, culturel ou artistique dans un esprit de service public. Donc, considérant le montant de la cotisation annuelle qui est de 100 euros, donc ce n'est pas des sommes astronomiques, c'est la cotisation fixée pour les strates, pour les communes appartenant à la strate de 2000 à 5000 habitants, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune et les statuts de l'AEPE. Il demandait au conseil municipal d'autoriser l'adhésion de la commune à l'association des élus du patrimoine de Vaucluse.
Très bien. Des questions particulières là-dessus ? Non, je le mets donc au voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie.
Ça peut simplement un petit mot, ça peut éventuellement être intéressant si, s'il y a des associations privées hein, qui se constituent pour la défense du patrimoine. Puisque une association, un organisme de ce type peut nous aider à monter ce type d'association qui lui-même peut éventuellement nous permettre d'obtenir, qui sait, des subventions pour un projet précis.
D'accord. Bien, la question numéro 11, le transfert des personnels liés à l'extension de la définition de l'intérêt communautaire en matière d'accueil de la petite enfance. Dans le cadre de l'extension de la définition de l'intérêt communautaire dans le domaine de l'accueil de la petite enfance, le Conseil de communauté de la COV a voté dans sa séance du 27 juin 2016 le transfert des personnels exerçant en totalité leurs fonctions dans les services concernés, à savoir une structure multi-accueil, SMA donc pour la commune de Bédouin, trois SMA et un lieu d'accueil parents-enfants, qu'on appelle un LAEP pour la ville de Carpentras, et un SMA et un LAEP pour la commune de Malocène. Donc il y avait plusieurs, cinq structures qui étaient concernées sur trois communes. C'était les dernières structures d'ailleurs qui restaient, donc les cinq dernières structures existantes sur le territoire de l'intercommunalité. Alors vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la délibération du Conseil de communauté d'agglomération Mantoue-Pont-Aven-Essin numéro 144-13 du 4 novembre 2013 relative au dispositif indemnitaire et ses avenants numéro 206-14 du 10 octobre 2014 et 186-15 du 14 décembre 2015, vu la délibération du Conseil de la COV du 27 juin 2016 approuvant l'extension de la définition de l'intérêt communautaire dans le domaine de l'accueil de la petite enfance à compter du 1er janvier 2017, considérant qu'il résulte de l'article L5211-4-1
du Code général des collectivités territoriales que l'extension de la définition de l'intérêt communautaire dans le domaine de l'accueil de la petite enfance entraîne de droit le transfert des agents qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service transféré, considérant que sur le territoire de la COV, la commune de Bédouin, Carpentras et Malocène assure en régie la gestion de 5 structures multi-accueil petite enfance et de 2 lieux d'accueil parents-enfants, et qu'il convient de transférer à la communauté d'agglomération les personnels dédiés à ces missions, considérant que les agents transférés conservent, s'ils ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages collectivement acquis en application de l'article 111, paragraphe 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, considérant qu'en cas de transfert de personnel, une fiche d'impact doit être annexée au projet de délibération, vu l'avis du comité technique de la COV du 23 juin, vu l'avis du comité technique de la commune de Bédouin, donc du 7 juillet, et c'est une réunion qui s'est tenue ce matin et donc qui a recueilli l'adhésion totale de tous les participants, vu la fiche d'impact annexée à la présente délibération, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le transfert à compter du 1er janvier 2017 des 6 agents permanents exerçant en totalité leurs fonctions dans la crèche municipale avant tout petit. Alors il y a une sage-femme de classe normale, 3 auxiliaires de puériculture de première classe, 2 adjoints d'animation de deuxième classe, dont un à temps non complet, 30 heures par semaine. Il est demandé donc aussi de régulariser le tableau des effectifs de la commune de Bédouin en supprimant les 6 postes subventionnés à la date du transfert. Donc voilà donc cette délibération que je soumets à votre approbation. Il y a des questions? Oui, monsieur Constant.
La fiche d'impact.
Oui, qui était jointe donc au dossier. Elle est ici. Elle comporte 7 pages.
D'accord.
Elle était au... Alors, elle prend en compte notamment la situation statutaire et conditions de travail des agents transférés. Ça concerne les carrières, les changements de situation administrative, le dispositif indemnitaire, tout ce qui est action sociale. Ensuite, dans l'organisation du travail et l'accompagnement du changement, on parle des lieux de travail et des locaux, du fonctionnement des SMA et des LAEP, de l'organigramme, donc du nombre, donc du prévisionnel en nombre total d'agents pour l'intercommunalité, ça représente quand même le transfert de 80 personnes. Nous ne sommes qu'une petite goutte d'eau dans la mer. Et donc sur les agents transférés, les éléments obligatoires de rémunération, la gestion du temps de travail, l'accompagnement du changement, bien sûr, qui a été mis en place et qui va se poursuivre. La fiche d'impact, en fait, c'est tout le détail de la procédure qui a été menée. Ouais, c'est intéressant, mais c'est un peu prolifique.
Par rapport à ça, et donc notamment la crèche,
oui.
On avait évoqué le conseil précédent assez rapidement, mais... Les impacts potentiels, ce jour, apparemment, on n'a pas le choix.
Non.
On n'a pas le choix.
Oui.
Donc, on n'a pas le choix, par contre, on peut quand même donner notre avis et se positionner.
Ah, mais tout à fait.
Voilà. Donc, est-ce que nous, commune de Bédouin, on ne va pas perdre un service, en disponibilité, en flexibilité, plus globalement par rapport à la population, même si on n'a pas le choix, on peut se poser la question. Quel est l'intérêt? Quels sont les avantages et les inconvénients?
Je ne vais pas refaire toute l'histoire ancienne, puisque bon, moi je suis élu depuis 3 mandats, et donc notamment lors du premier, il y a eu...
Fait, ouais. Ça ne s'est pas fait les mandats précédents, donc, moi, il y avait eu des possibilités, ça ne s'était pas fait.
Non, lors des mandats précédents, il n'y avait pas eu la possibilité, puisque l'intercommunalité refusait de le faire. Prenant, vous vous en souvenez, à ce moment-là, certaines structures, alors avec des... critères et des raisons, on va dire, qui nous échappent, même si on peut les percevoir un peu confusément quand même. Et donc ce qui était important, c'est qu'au niveau de cette compétence, qui même si elle ne fait pas partie des compétences obligatoires, il est important que cette compétence soit complètement remplie. Je vous rappelle tout de même que lorsque l'on a
comme c'était le cas des structures qui sont gérées par les communes et des structures qui sont gérées par l'intercommunalité, nous, les communes, nous contribuons avec nos propres deniers au fonctionnement des structures qui existent ailleurs. En fait, on est un peu condamné à ce qu'on appelle la double peine. Et donc, c'est un peu ce qu'a voulu modifier, disons, réduire et annuler donc le vote du conseil de communauté. Donc ensuite, sur le fait de gérer sa structure ou pas, on entre effectivement dans une démarche de mutualisation, mais qui n'existe pas que là, de mise en commun de moyens et autres, hein, où effectivement on peut trouver un compte et un intérêt lorsque, par exemple, il s'agit de faire du remplacement de personnel quand on tourne sur un potentiel important. C'est le cas actuellement, puisque nous avons notre sage-femme qui est en arrêt de travail pour des raisons médicales, et donc on est obligé de courir le recrutement, ce que l'on trouve ou que l'on ne trouve pas facilement, alors que dans une structure mutualisée, eh bien, on fait des délégations, et donc ça permet de fonctionner, ne serait-ce que d'être en règle, et sans parler de l'excellence de la qualité du fonctionnement, ne serait-ce que le fait d'être en règle par rapport aux divers arguments. Alors ensuite, sur le fait de continuer, nous, à posséder une structure, il est clair aussi que lors d'un positionnement, d'une enquête ou de l'évocation d'une augmentation de la taille de l'établissement, hein, vous avez vu, on fait une MSEP de 330 mètres carrés qui nous coûte 710 000, encore on n'est qu'en début de chantier. Donc il est clair aussi que c'est quelque chose qui va être raisonné au niveau intercommunal. Et de toute façon, si quelque chose doit être porté, c'est bien normal, puisqu'on évolue sur un territoire. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a quand même accueilli un certain nombre de gamins des villages voisins. À un moment donné, je pense qu'on aura une plus grande souplesse de réaction. Alors après, moi je ne préjuge pas des engagements qui seront ceux des caisses d'allocation familiale, ceux de l'État, ceux des partenaires, d'autres partenaires sociaux. Mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'on sera tout de même plus sécurisé là-dessus. J'ajouterai que vis-à-vis du personnel, puisque en fait moi c'était plus sur cette question que je m'interrogeais, donc les personnels, eh bien, vous l'avez vu ce matin, le représentant dans le cadre du CHSCT ont approuvé de façon unanime ce transfert. Donc bien sûr, il n'y a pas d'obligation de muter, mais par contre il y a une possibilité de mutation si on désire changer de fonction et prendre du grade. Ça c'est quand même important. Dans les petites structures, nous on n'allait pas surcréer des postes à responsabilité qui ne nous auraient rien apporté. Au niveau du régime indemnitaire, il a été noté, sans parler de la RIFSET, une modification du régime indemnitaire des agents qui va s'appliquer à partir du 1er janvier, mais enfin là ce sera pareil pour tout le monde. Il a été noté donc financièrement, les primes et les aides donc étaient pratiquement doublées, hein, en étant au système de l'intercommunalité. Il a été noté aussi en termes de conditions de travail que les agents donc ils travailleront désormais 37 heures en lieu et place de 35, bénéficieront de 11 jours de RTT annuel.
C'est content de partir, quoi.
Mais le marché, enfin, vous avez lu de toute façon, je vous ai donné un article de loi qui faisait état des avantages acquis.
Oui, c'est pas le cas. Je ne pense pas qu'il soit content de partir.
Écoutez, ils voulant peut-être exprimer de façon privée, voilà. Maintenant,
ça c'est un argument effectivement sur la partie du personnel, mais sur la partie du service, moi je pense, et je continue à penser que quelque part, si ça s'est fait à un certain moment, il y avait un besoin certes qui n'existait pas, ce jour, on perd une autonomie par rapport à tout ça. C'est sûr que ça peut avoir un coût, et encore c'est un coût ressenti à l'avenir, mais on perd quand même un service que l'on avait sur la commune qu'on gérait.
Je voudrais intervenir juste aussi, je m'opposerai aussi à cette délibération, hein, moi je voterai contre.
c'est plus sur le fond, sur le transfert, hein, on en a déjà parlé, de toute façon, ce n'est pas une découverte. Il y a trois points, moi, qui me gênent. Hein. On perd la proximité du service aux familles, ça c'est clair. Un service géré depuis Carpentras, on ne pourra pas avoir cette souplesse-là qu'on avait pour nos familles de Bédouins, ça c'est sûr. Le deuxième point, on perd en polyvalence, je dirais, du personnel, parce qu'on avait du personnel sur la crèche qui était aussi sur du centre de loisirs et qui pouvait, hein, sur la cuisine notamment, mais aussi sur l'animation. Donc ça, on ne l'aura plus. Et le troisième point, je ne suis pas sûr aujourd'hui, ce n'est pas terminé au niveau financier, mais que la commune soit, soit avantagée sur le transfert de cette charge au niveau financier. Voilà, moi j'ai juste, hein, c'est mon point de vue, Luc, donc je voterai contre cette prochaine.
Je peux bien donner que je dise un petit mot quand même, puisque j'ai connu avec Luc, au début de l'intercommunalité, la décision qui a été prise par la COV à ce moment-là, nouvellement créée, puisque c'était une nouvelle communauté d'agglomération, concernant la prise en compte par la COV de cette la prise en compte partielle, j'allais dire partielle, par la COV de cette compétence petite enfance. On s'est quand même trouvé dans une situation où, effectivement, quelques communes, pour les citer Malossène, Carpentras et Bédouin, qui avaient fait l'effort de créer une crèche totalement à leurs frais, bien sûr, c'est normal, et de la faire fonctionner, bien sûr aussi à leurs frais, enfin avec les aides normales de la CAF, se sont trouvés en face de communes qui n'avaient strictement rien engagé sur la création de crèches, et qui du jour au lendemain, quasiment, se sont vus offrir par la COV la prise en charge totale par la COV, sans que ça leur coûte quoi que ce soit, de toute la compétence petite enfance. C'était quand même une situation, disons, pour le moins curieuse, pour pas dire fondamentalement injuste. Bon, on l'a souligné dès le départ, et je pense que Luc et moi aussi, quand j'étais conseiller communautaire, on n'a pas cessé de protester contre cette situation, où effectivement, comme tu disais tout à l'heure, et comme le disait Luc, on subit la double peine. Maintenant, aujourd'hui, la décision concerne Carpentras, Malossène, Bédouin. J'imagine mal que sur le territoire de la COV, 29 communes, je ne sais plus combien de crèches, toutes les crèches soient gérées par la COV et que Bédouin puisse raisonnablement faire totalement bande à part dans ce domaine. Ça me semble quand même une situation difficile. Alors, je n'interviens pas sur le problème de la qualité. Luc a parlé longuement des problèmes concernant le personnel. Je n'interviens pas sur le débat concernant la qualité du service. Bon, sera-t-elle équivalente? Sera-t-elle meilleure? Sera-t-elle moins bonne? J'ai pas d'éléments qui me permettent de porter un jugement. Là, je sais que c'est l'inquiétude de Patrick Campon. On n'a pas d'éléments qui me permettent aujourd'hui de dire de façon formelle ça sera meilleur, moins bon ou équivalent. On peut espérer que ça sera équivalent, je l'espère, mais on n'a pas d'éléments là-dessus. Bon, par contre, Bédouin restant la seule commune des 29 communes de la COV à gérer elle-même la compétence petite enfance, si on avait une crèche de 25 places ou 30 places, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? On sait très bien qu'on a une crèche de 14 places qui est notoirement insuffisante. Des communes beaucoup moins importantes que la nôtre ont vu se créer une crèche financée par la COV pour une population inférieure avec un nombre de places double de la nôtre. Donc, si nous prenions cette orientation en supposant que nous puissions le faire, théoriquement, rien ne nous empêche de le faire, je doute que nous ayons quelque chance de voir un jour ou l'autre, dans les prochaines années, s'accroître la capacité d'une crèche spécifique à Bédouin et non gérée par la COV. Je n'y crois absolument pas, ça me semble totalement irréaliste. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est un élément de poids dans cette décision. C'est un élément de poids. Et je rappelle aussi que, de toute façon, même si nous le voulions, et à certains moments, la question avait été posée par Luc, même si nous voulions prévoir une extension ou une nouvelle crèche, la réponse de la COV qui a son mot à dire, de toute façon, qu'elle prenne notre crèche ou ne la prenne pas. La réponse de la COV, parce que la COV a une compétence quand même dans ce domaine. Bon, la réponse des organismes Caisse d'allocation familiale et CNAF est de dire, dans ce contexte-là, hors de question. On verra peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, il est hors de question qu'on prévoit une création d'une autre. C'est pas une extension, l'extension n'était pas possible. Une création d'une nouvelle cause. Alors tout ça, ça doit aussi être pris en compte dans cette décision. Moi, je comprends les questions, hein, je ne les récuse pas, je comprends les inquiétudes de Patrick, mais je pense qu'il faut aussi leur situer dans un contexte général. Hein, et dans un contexte général d'intérêt de la commune aussi.
Oui,
et l'intérêt des enfants.
L'histoire, effectivement, elle est écrite comme ça, avec la COV qui ont créé des crèches à un certain moment, alors que nous l'avons déjà. Okay. Ce jour, on a des incertitudes sur la qualité du service, on a des incertitudes sur la partie finance, il y a plein d'incertitudes, et on dit banco, quoi.
Je voudrais modérer un peu ton propos. Des incertitudes sur la qualité du service, c'est quand même remettre en cause le personnel qui est là. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question que notre personnel bouge. Donc je ne vois pas pourquoi il travaillerait moins bien en étant employé de la COV qu'en étant employé de la mairie de Bédouin, sachant que c'est quand même les mêmes gamins qui vont garder, les mêmes familles qui vont côtoyer tous les jours. Sur le plan réglementaire, je vous rappellerai aussi une chose, c'est que la prise en charge de cette compétence a nécessité donc un vote de l'intercommunalité qui s'est fait suivant le mode spécifique des scrutins décisionnels, c'est-à-dire 2/3 des communes représentant au moins la moitié des habitants ou la moitié des communes représentant au moins les 2/3 des habitants. Et vous voyez, c'est pas la règle du 50, et des poussières qui jouent, donc c'est une règle particulière. Bon, encore qu'il y a des moments où les règles du comptage, elles sont parfois un peu, mais dans d'autres domaines manipulés, on n'y viendra pas là-dessus. Donc déjà, il y a ce vote qui est réglementaire. Ensuite, sur le fait de rester en autonomie, il ne faut quand même pas se cacher les yeux avec les mains. On sait très bien qu'on est d'ores et déjà imbriqué dans le système de fonctionnement de l'intercommunalité. Et d'ailleurs, là aussi, on avait été très bon, puisque le portail Agora que nous avons, par exemple, nous sommes les premiers à l'avoir. Enfin, nous sommes les premiers, et la COV n'en est pas encore équipée et va le faire prochainement. Ceci dit, si nous étions restés dans cette même situation, nous aurions de toute façon continué à contribuer, après nous être équipés nous-mêmes et après avoir fait la dépense, à l'équipement de toutes les crèches voisines. Ça, c'est aussi un détail, mais enfin, moi je pense à un moment donné que ça a de l'importance. La crèche, donc, c'est aussi un service aux familles. Ce service aux familles, si nous restions sur le fait de ne fonctionner que local, ça peut pénaliser, ça peut handicaper des parents de Bédouin qui vont travailler ailleurs, qui, du fait de cette fusion de fonctionnement, peuvent eux-mêmes avoir des droits, je le mets entre guillemets, sur le fait de déposer des gamins, par exemple, à Malocène quand ils y travaillent, ou à Aubignan si le hasard... Et on en a qui vont à Saint-Didier. Là aussi, quoi, il faut voir les choses comme elles sont. Et d'autre part, oui, quand vous parlez du coût, effectivement, mais là, les coûts, donc, je ne pense pas que ça nous coûte plus cher. Il y a tout de même un petit détail, c'est que quand on fait un transfert, à coût constant. C'est-à-dire, on prend la photographie en général, on le fait sur 3 exercices, des dépenses, des recettes, donc, et on voit qui doit donner de l'argent à l'autre, mais par contre, dans le temps, ce prélèvement est linéaire. C'est-à-dire que dans 10 ans, on nous prélèvera toujours. C'est nous qui devons. Nous sommes en DB, naturellement. Hein. Nous sommes en DB, là. Combien, grosso modo, sur le fonctionnement de la crèche. Oui, mais après, eux introduisent les amortissements, c'est plus compliqué. Mais enfin, nous sommes en DB de toute façon. On sait très bien que le transfert de la crèche nous coûtera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, toujours la même somme que ce qu'elle représente maintenant, indépendamment, par exemple, du GVT, le glissement, l'augmentation pour les carrières des personnels, donc l'augmentation systématique de salaire. Donc tous ces paramètres, ça doit être aussi pris en compte.
Et ça fait, et que, je veux dire, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, de toute façon, tous les systèmes sont pétensifs. On va parler encore un peu d'argent. Les dotations que nous obtenons, vous savez que nous touchons au quotidien des indemnités, comment on appelle, des prestations de services. La prestation de service, quand elle est le fait, et c'était notre. Enfin, si, quand elle est le fait d'une collectivité telle l'intercommunalité, elle est augmentée. Patrick ?
Non.
Si. Et si, on a une obligation de. La prestation de service est plus importante quand elle entre dans le collectif. Bah,
c'est pas ce mécanisme-là, mais.
Oui. Je le simplifie peut-être un peu, mais voilà, donc c'est-à-dire que tout concourt d'une manière ou d'une autre à aller dans cette direction. Après, mais bien sûr, chacun peut, oui, chacun essaie très bien à son opinion sur cette affaire, mais.
Je rajouterai juste, ça serait peut-être plus loin dans le débat, mais aujourd'hui on a donc des difficultés, puisqu'on a deux directions, on a une direction partielle sur la structure, on a interpellé la COV pour jouer la question de la mutualiser. La seule réponse de la COV, c'est de nous dire, voilà les CV qu'on a actuellement de directrice, débrouillez-vous. Donc, tu vois, j'ai des doutes sur la réactivité de l'intercommunalité, sur notre structure qui ne répond pas. Ils ne sont pas présents dans ces questions-là.
Oui, mais là, c'est... Alors, oui, mais quand la COB gérera, je pense qu'ils
seront obligés. Ils seront obligés. Mais on est quand même, comme tu dis, dans l'intercommunalité déjà. Hein, donc déjà dans quelque chose qu'on doit un peu mutualiser, qu'on doit un peu s'entraider. Pas de solution, pas de réponse. C'est des doutes voilà, hein, qui se rajoutent sur la question de fond, hein, mais c'est des doutes qui se sont rajoutés. C'est tout. On ne va pas aller au-delà de cette polémique.
Mais... Très bien. Écoutez, je soumets cette question au voix. Donc, qui est contre ? 1, 2, 3, 4, je suppose 5, 6. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Comptabiliser le reste. Merci. Demande de subvention auprès du conseil départemental de...
Non,
pardon. Vacation de médecins dans les structures petite enfance. Tiens. Regardez la délibération suivante. Vraiment.
Alors, la désignation d'un médecin rattaché à la crèche doit permettre de garantir les conditions d'accueil des tout-petits, tant sur le plan de leur santé, sécurité, hygiène et leur bien-être. Le professionnel de santé s'inscrit dans les directives réglementaires du décret du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique. Considérant l'intérêt pour la crèche municipale et éventuellement pour l'accueil de loisirs sans hébergement maternel de faire appel à des vacations de médecins, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider un taux horaire de vacation propre à la commune de Bédouin, il est demandé au conseil municipal de voter un taux horaire brut de 50 euros, exclusif de toute autre rémunération, et d'autoriser M. le maire à engager toute démarche en vue de ces vacations.
Très bien, mais là, vous voyez un exemple de fric.
Juste, c'est un autre exemple. Quand il s'agit de trouver un médecin vacataire, nous avons aussi interrogé et utilisé le réseau de la COV. Aucune crèche de la COV aujourd'hui n'a de médecin vacataire. Voilà, hein, donc, parce que normalement, il devrait en avoir un. Et on leur avait demandé si vous en avez un qui pourrait intervenir sur notre crèche. Ils n'en ont pas. Alors voilà, nous on en aura un. On a le portail Agora, maintenant on a un médecin. Donc tu pourras dire au moins à Bédouin.
Ah mais tu sais,
on apporte quelque chose.
Et sur la gestion, ça m'a entendu que si on gère nous-mêmes,
on est capable d'avoir des choses comme ça.
Oui, mais attendez, il y a deux faits. Soit c'est obligatoire et auquel cas la structure est défaillante, soit pour nous c'est super effrayant.
Quelque part, on va un service qu'on arrivait à assurer dans la légalité, etc., on va le confier à l'Interco qui est en retard d'une plombe sur tout ce qui est obligatoire.
Non, mais attends, il faut voir si c'est réglementaire ou si ça ne l'est pas.
Ben, si on le fait,
Par contre, si c'est réglementaire et si on le paie, ce sera quand même une dépense de moins qu'on aura l'an prochain.
Non, mais ça d'accord. Et
puisque là, on ne va qu'au 31 décembre.
Bon, on parlait surtout de, quelque part, comment c'est géré, comment c'est traité au niveau de l'Interco. Voilà, c'était ça.
Je pense
entre le logiciel et là, quelque part, on est en avance parce qu'on gère nous-mêmes, qu'on a le souci. Et le service à apporter. Alors qu'eux, ils n'ont pas ce service de proximité avec le rendu. Ça, c'est un fait. Quoi. Moi, je sur ce genre de truc, je pense que quelque part, les élus, vous, nous, quand on est aux manettes, on a le souci du service rendu beaucoup plus que l'interco à un certain moment.
Ouais. Oui, service rendu pour 14 enfants, pour 14 places à la crèche. Ouais. Je rappelle, service rendu pour 14 places à la crèche.
On va remettre en cause ce qui s'est décidé pendant X années et qu'on a tous quand même allé dans le sens.
C'est un fait. C'est un fait. Si un jour,
que tu regrettes ce qui s'est fait jusqu'à ce jour sur la crèche.
Non, mais là, je dis service rendu pour 14 places à la crèche. S'il est clair que si nous avions la possibilité de rester autonome sur cette gestion de crèche, nous aurions toujours 14 places. Pas 15, ni 16, ni 17, ni 18. Bon, alors je veux bien croire, moi, que c'est toujours l'intérêt des gens de Bédouin, mais peut-être que l'intérêt des gens de Bédouin, c'est, en ayant une crèche qui sera gérée par la COV, d'avoir un peu plus de place à Bédouin aussi.
Oui.
C'est quand même à prendre en compte.
C'est à prendre en compte, c'est sûr.
Oui, mais
c'est
aussi
quand même, c'est à prendre en compte.
Parce que ceci dit, et vous allez me dire, ben c'est ton rôle, tu es là pour prendre les coups, c'est normal, tu es le maire. Je me fais interpeller de façon très vive par tous les jeunes des villages voisins qui travaillent sur Bédouin, auxquels je dis, excusez-nous, messieurs, dames, mais je ne peux pas prendre vos enfants, même si je vous connais depuis X générations, si vos parents sont de Bédouin, etc., etc., parce qu'on n'a que... Parce qu'on n'a que 14 places, même si vous avez fait votre scolarité à Bédouin, même si vous argumentez tout ce qui est juste et que je peux comprendre en tant qu'individu, à un moment donné, lorsqu'il faut faire un choix, on ne le fait que pour nous, on joue complètement l'enfermement. Et ça veut dire ça, allez, il y a 14 places, ben, tu le sais.
Oui, ben oui.
Non, mais quelque part, ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, on ne va pas ce jour dire que c'était n'importe quoi, que ça coûtait trop cher, etc. etc. C'est sûr qu'après, à Mazan, il y avait une structure communale, certainement, ils en ont fait une de l'interco, si je ne me trompe pas.
Et voilà. ils ont
pourquoi dire que demain, c'est impossible à Bédouin?
Ils ont le nombre de places.
Mais Alain, on est bien dans cette démarche. Oui, mais par quoi commence-t-on?
Mazan, ils l'avaient gardé communal au départ. Ils ont fait l'interco et après il y a tout qui a rejoint.
Et tout a été intégré.
Voilà. Pourquoi ce jour on est dans l'obligation de dire ça pour avoir la suite derrière? C'est pas vrai.
Et bien, parce que tout simplement, parce que nous, on n'a pas les moyens de. On n'a pas les moyens de porter un agrandissement.
Mais une autre crèche, l'Enderco, peut venir la faire sur Bédouin, même si c'est là la garde communale.
Non. Vous
avancez sur le reste aussi.
Non, Alain, là, à partir du moment, de toute façon, où il y a une décision intercommunale qui a été prise, hein, vous l'avez vu, quand on a décidé aussi de nous augmenter de multiplier par 3,5 l'assainissement, le taux de l'assainissement dernièrement, et bien de la même manière que tu votes pour ou que tu votes contre, c'est quand même la loi qui s'applique.
D'accord.
Donc c'est quand même le fait démocratique.
C'est pas parce que tu es obligé d'être pour. Voilà, ok, on est obligé de le faire. Mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'être pour.
C'est ce que je te dis. Et après, chacun peut avoir une opinion, mais c'est très bien, c'est la démocratie. Bien, alors est-ce que vous voulez voter ce taux horaire de 50 euros pour les interventions médicales sur notre crèche, puisqu'on en était parti de là? Alors y a-t-il des oppositions à cette contractualisation? Non? Des abstentions? Je vous remercie. Je n'ai pas de doute quand même. Alors, demande de subvention auprès du conseil départemental pour l'accueil de loisirs sans hébergement et l'accueil jeune, Béatrice.
Le département de Vaucluse participe au financement des accueils de loisirs du département sous gestion municipale ou associative. La commune de Bédouin disposant de services d'accueil péri et extrascolaire, il est proposé de solliciter auprès de M. le Président du Conseil départemental une participation établie à 0,90 € par jour et par enfant pour l'année scolaire 2015-2016. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter une aide départementale pour le fonctionnement de l'accueil de loisirs et de l'accueil jeune, de renouveler chaque année cette demande de subvention auprès du département et de donner pouvoir à Monsieur le maire ou tout adjoint faisant en fonction afin de signer toute pièce afférente.
Des questions là-dessus? La demande de subvention, c'est classique. Donc, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Monsieur Petit, le nouveau centre de secours, cession de la parcelle 1305 aux 10. Vieille histoire.
Monsieur le maire rappelle que par la délibération numéro 2012-034 du 28 mars 2012, le conseil municipal a décidé de la participation financière de la commune à la construction d'un nouveau centre de secours, ci à Bédouin, route de Crillon, et autorisé la signature de la convention afférente avec le SDIS. Or, dans cette dernière, signée le 16 mai 2012, il est fait mention d'une cession gratuite d'un terrain immobilisé nécessaire à l'opération, alors que la délibération prévoyait une mise à disposition du terrain communal. Le centre de secours est désormais opérationnel. Aussi, afin de permettre le transfert de la propriété, une nouvelle délibération est nécessaire pour rectifier ces terrains matériels. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu l'avis du service des domaines en date du 27 novembre 2014 portant l'évaluation de la parcelle cadastrée section G numéro 1305 située quartier des Sablières et d'une superficie de 5 440 m² à 247 685 euros, soit 45,53 euros le mètre carré. Il est demandé au conseil municipal d'accepter la cession à l'euro symbolique de la parcelle susmentionnée, supportant aujourd'hui le centre de secours au profit du SDIS de Vaucluse, et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte auprès de l'étude de maître Arnoux, notaire à Bédouin.
Très bien, je vous remercie. Donc vous aurez compris que c'est simplement un terme qui a nécessité la prise d'une nouvelle décision et qu'en fait, c'est gratuitement un terrain que l'on vend pour 1 euro. Bon, on n'est pas terrible comme vendeur. Mais je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, nous allons enfin pouvoir terminer avec cet acte. Les acquisitions.
Dans 2 mois.
Dans 2 mois. Des acquisitions foncières encore, hein, monsieur Petit, s'il vous plaît.
Conformément aux orientations du PADD, la municipalité poursuit son programme d'acquisition foncière permettant à terme à la commune de Bédouin de réaliser les équipements nécessaires à son développement. Ainsi, il est proposé l'acquisition amiable de parcelles situées lieu dit les Prés de la Maille, actuellement classées en zone A du PLU à hauteur de 5 euros le mètre carré, étant précisé que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte afférents à toutes les acquisitions et chargera maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte. Un accord de principe de M. Jean-Paul Mauriès, propriétaire des parcelles cadastrées F 1098 pour 880 m² F 1099 pour 550 m² et F 1100 pour 620 m² a été réceptionné en mairie en date du 17 mai 2016 pour un montant de 10 250 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis des domaines en date du 27 novembre 2014 portant 1,40 € la valeur vénale au mètre carré des parcelles classées en zone agricole du PLU, vu la délibération numéro 2016-031 du 24 mars 2016 portant approbation du budget primitif 2016 pour la commune de Bédouin, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles susmentionnées quartier Prés de la Maille au prix de 5 euros le mètre carré, soit 10 250 euros. D'autoriser M. le maire ou tout autre adjoint faisant fonction à signer l'acte de vente et toute pièce afférente à cette acquisition et de charger maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte.
Très bien. Bon, des questions particulières, on est toujours sur les mêmes procédures d'achat qui pourraient toucher quand même à leur fin. Je le soumets aux voix. Des oppositions. 5. Des abstentions. Je vous remercie. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, volet vidéoprotection, appel à projet 2016. Monsieur Delino Senti, s'il vous plaît.
L'amélioration de la tranquillité publique constitue une des orientations prioritaires du plan départemental de prévention de la délinquance pour la période 2014-2017. Aussi, l'installation des dispositifs de vidéoprotection peut faire l'objet de subventions du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. En effet, le système de vidéoprotection sur la voie publique doit permettre de répondre aux finalités prévues par la loi, assurer la sécurité des personnes, prévenir les atteintes aux biens, protéger les bâtiments publics et prévenir le trafic de stupéfiants. La commune de Bédouin est équipée de 4 caméras. Après avoir réalisé une étude sur le dispositif existant, il est envisagé d'avoir recours aux travaux suivants. Déplacement du centre de supervision urbaine et mise en place de la fibre optique, réalisation du système radio et équipement de 2 caméras route de Carpentras et de 2 caméras quartier Saint-Marcelin et Ferraille. Considérant l'intérêt pour la commune de procéder aux travaux de déplacement du CSEU et d'extension des caméras de vidéosurveillance, considérant que le montant total de cette opération s'élèverait à 47 000 euros hors taxe, considérant que les travaux peuvent s'inscrire dans le cadre des opérations éligibles à un financement du FIP, vu le code de sécurité intérieure, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, après avoir appelé que toute modification du système doit faire l'objet d'une autorisation de la préfecture au préalable. Il est demandé au conseil municipal de solliciter une subvention maximale de 40% auprès de M. le préfet de Vaucluse dans le cadre du FIB 2016, volet vidéoprotection, soit 18 000 euros pour les travaux précisés ci-dessus. D'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien. Des questions particulières là-dessus ? Alors, on se trouve là sur ce terrible paradoxe où on entend des voix s'élever contre l'intrusion dans la vie privée des uns des autres, et par contre, de la même manière, on se fait interpeller quand on a du vandalisme au cimetière ou quand on se fait voler une caravane, comme ça nous est arrivé à
d'autres. C'est pour ça que je demandais si sur la route du cimetière, ça serait pas bien, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de... Je ne sais pas comment dire.
De mauvais passages.
Oui, de mauvais passages, voilà. Merci.
Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été confronté à ce problème, donc on y réfléchit, parce que, bon, comme disait M. le maire, il y a l'histoire des caravanes qui sont stockées, qui sont garées à côté du camping, où on a fait quand même l'investissement pour refaire le mur, le sécuriser, et là, ils sont passés carrément par le portail. Ils ont tout cassé, ils sont passés par le portail.
Mais c'est bien un homme, je ne suis pas tout à enfin, d'après les constatations de la gendarmerie, ils ont bien essayé de passer par le même endroit, ils ont découpé le grillage au même endroit, et ils se sont trouvés confrontés au mur que nous avons fait de protection. Mais bon, ça n'a pas empêché de passer les personnes. Donc ils sont passés par le mur, et ils sont allés ouvrir le portail de l'intérieur. Voilà. Alors, c'est vrai que le mur les a empêchés de sortir la caravane par du côté où ils la sortaient habituellement, mais ça ne les a pas empêchés de passer, que les individus passent et aillent ouvrir le portail. Voilà. Alors maintenant, on réfléchit aussi à une protection du portail.
Pour le cimetière aussi, donc c'est pour ça qu'on a fait faire des études pour passer par radio. Donc on mettrait une antenne sur le toit de l'église, c'est une petite antenne qui se fond bien dans le paysage. On aurait un rayonnement de 10 km autour du village, donc ça serait énorme. Ça serait plus simple pour faire des installations de caméras, puisqu'on aurait plus de génie civil à faire, puisqu'on passerait directement par radio. Et là, on pourrait étendre la vidéosurveillance à plusieurs points. Après, ça serait une décision municipale. Mais il faut déjà se doter de ces outils pour pouvoir, dans le futur, protéger un peu tout ce que l'on doit protéger dans le village.
Oui, sachant que tout lieu surveillé doit faire l'objet d'une déclaration, d'une autorisation préfectorale, bien sûr. Il faut monter un dossier qui est le périmètre.
Mais on a eu un peu des nouvelles sur le cimetière, sur les dégâts, sur...
Enquête en cours, de nombreuses plaques ont été prélevées pour les empreintes digitales, analyses.
Oui, ça ne veut pas quand est-ce qu'ils vont rendre les plaques.
Ça avance bien par contre. L'enquête avance bien. Ah. Voilà. Bon. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu confidentiel.
Souhaitons-le.
Alors, moi je m'y opposerai aussi à cette délibération. Il y a plusieurs choses qui me gênent. Je ne suis pas sûr de l'efficacité de ce type de dispositif. L'encadrement juridique de ces systèmes-là est encore un petit peu flou, me semble-t-il. Parce que derrière, il faut quelqu'un qui dit les images, quand on peut les lire et quand on peut s'en servir pour déposer une plainte pour une enquête. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, ça me pose un problème un petit peu éthique sur les questions des libertés individuelles. Et le troisième point, on fait appel à un fonds interministériel prévention de la délinquance, prévenir les trafics de stupéfiants. Il y a d'autres choses à faire que de mettre des caméras pour agir sur ces questions-là. Voilà, ce n'est que mon point de vue.
Si je peux répondre à ce deuxième point, il n'y a que les gendarmes qui auront le droit de lire ou de regarder les vidéos s'ils ont une plainte.
Il faut qu'il y ait plainte, commission rogatoire, et là tu peux utiliser les images.
Pas de plainte. Donc ça ne sera pas la vue de tout le monde. C'est,
qu'est-ce qui risque de se passer
rurale qui va aller voir
la commune va être sans arrêt en train d'aller déposer des plaintes pour pouvoir utiliser les images. C'est que mon avis.
Bien entendu, Patrick, mais après, à un moment donné, moi je te propose et je te conseille de venir à la banque d'accueil quand un forfait vient de se. viennent de se produire, qu'est-ce qu'on répond aux gens? On nous dit, vous ne prenez aucune précaution, votre police ne fait rien, etc. Alors bon, on sait bien que ce sont des parents en l'air, parce que personne n'est peut-être partout, mais à un moment donné, je ne suis pas sécuritariste à l'extrême, tu le sais, mais oui. À un moment donné, donnons-nous les moyens de contrôler ce qui doit l'être. Je vous l'ai dit des dizaines de fois, quand on a équipé, je crois que c'était lors de notre premier mandat, la place du bas, tout était clairement identifié, donc vous êtes dans une zone surveillée. Les personnes qui ne veulent pas être prises en photo pour des raisons diverses, et bon, ne serait-ce que éthiques, eh bien, ils peuvent aller se garer sur tout un tas d'autres parkings, quoi. Mais à un moment donné, qu'on laisse... Moi, je suis tout à fait pour la liberté individuelle, mais qu'à un moment donné, on laisse le choix à ceux qui, disons, établissent un compromis entre leur liberté individuelle et la sécurité de leurs biens, mais qu'on leur laisse le choix d'aller à un endroit protégé. Moi, je...
On n'a pas beaucoup de c'est un sujet difficile. Hein,
oui, mais non, personne n'aura jamais raison. Là, mais...
Si après, avec une plainte, ça pratiquement jamais aussi. Hein,
ah, si, on a résolu des affaires, on a résolu des vols de camions, on a résolu des vols d'essence, des vols de voitures sur la place du bas. Des dégradations.
En fait, il faut qu'ils soient fichés aussi. C'est pas tout le temps. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui.
Parfois, c'est le hasard. Quand on a ceux qui avaient volé un camion, quelqu'un qui avait une aile de véhicule qui n'était pas de la même couleur du reste. Il a été repéré pour ça. Attendez, on n'a pas voté.
Oui.
Merci pour ce débat. Je vous le mets au voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, nous avons donc terminé ce conseil municipal. Il est 19h30 pratiquement. Donc nous interrompons l'enregistrement.